Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toutes cultures, de tous milieux, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi.
Bonjour Valérie Malard, est-ce que Popapote a été ta plus belle audace?
Alors Popapote, c'est l'une de mes plus belles audaces, en tout cas c'est ma plus belle audace professionnellement. Ça, il n'y a pas de doute, parce que ça m'a permis, en tous les cas, de construire et de réaliser, de concrétiser un de mes rêves. Et donc, oui, professionnellement, c'est une de mes plus belles audaces.
Alors, parle-nous un peu de toi, Valérie. Qui es-tu? Quel âge as-tu? D'où viens-tu? On veut tout savoir.
Je suis dans l'année de mes 50 ans. C'est un peu l'année où, pour beaucoup de gens, il y a des remises en question et une envie de renouveau. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Je suis maman de deux ados qui ont 20 ans et 18 ans. Et j'ai toujours travaillé dans le monde de l'agroalimentaire. J'ai travaillé dans des grosses sociétés dans lesquelles j'ai eu beaucoup de passion au niveau du métier de commercial. Les métiers les plus intéressants, les postes les plus intéressants, pardon, qui m'ont le plus enrichi, ce sont des postes sur le management, faire grandir, faire évoluer les équipes et chacune des personnes individuellement a toujours été un vrai moteur pour moi. Et le second moteur était effectivement de développer une relation de partenariat avec les clients pour générer un business ou en tout cas un développement de chiffre d'affaires qui soit positif, dynamique et rentable pour tout le monde.
D'accord. Alors c'est quoi Popapote ?
C'est le nom de la marque, de la société que j'ai créée, qui s'appelle Je veux du goût. Donc, je suis bien restée dans le monde de l'agroalimentaire. Popapote, c'est en fait un site de vente en ligne de produits artisanaux alimentaires. Mais c'est bien plus qu'un site de vente en ligne qui prône le bien manger. Il y en a beaucoup, beaucoup. Moi, je l'ai vraiment souhaité, en tout cas à mon image, avec une notion d'authenticité très forte, de respect et de partage, puisque derrière, il y a une communauté et chaque artisan, en fait, est sélectionné et recommandé par un de leurs clients. Donc, je ne prétends pas avoir le monopole du goût. Au contraire, je cherche à exploiter cette richesse du goût qui est partagée par plein d'autres épicuriens comme moi, qui en France connaissent plein d'artisans fantastiques qui savent sublimer leur terroir. Et du coup, en fait, c'est cette richesse-là que moi, j'avais envie de partager avec tout le monde parce que je trouve que c'est encore plus beau de partager en mangeant des choses évidemment bonnes et goûteuses pour la santé. Mais cette notion de partage est vraiment au cœur du modèle de Popapote. Et Popapote, en fait, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ce sont des potes qui partagent des bonnes adresses pour faire des bonnes popotes. Voilà l'historique du nom Popapote.
D'accord. Alors, cette idée, elle est venue comment? Alors, on entend bien l'agroalimentaire, on entend bien la notion de social, de groupe, de contact et de la valeur et de la richesse de ces contacts. On entend aussi que beaucoup, il y a beaucoup de plateformes qui se développent aujourd'hui sur la sélection, voire la livraison de produits du terroir, de produits bio. Moi, je voudrais comprendre comment cette idée est venue, déjà. Et puis, en quoi elle se différencie vraiment, hormis la question de la communauté, sur le plan qualitatif, quantitatif, voilà. Je voudrais tout savoir de Popapote.
Alors, l'idée, elle est venue tout simplement de quelque chose qu'on fait tous les ans depuis 30 ou 40 ans. C'est-à-dire que forcément, il y a une partie de la famille qui est originaire de Dordogne et nous, on habite en région parisienne. Et en fait, à chaque fois qu'on descendait, comme on dit, en Dordogne, on remontait des magrets, on remontait des produits d'un artisan qu'on connaît bien qui fait du porc. Et en fait, l'idée, c'était de faciliter l'accès à ces produits-là qui sont vraiment particulièrement goûteux tout au long de l'année, parce que parfois, on pouvait pas y descendre, parce que parfois, les gens qui descendaient, pour citer mes parents, bah, ils prennent de l'âge, donc remonter des glacières très lourdes, c'est de plus en plus compliqué. Donc l'idée, elle est née, en fait, sur une plage, il y a 4 ans déjà, donc c'est pas du tout un bébé Covid, de se dire, tiens, ce serait vraiment super si je pouvais avoir accès à mes produits favoris, parce que je sais qu'ils sont vraiment très très bons, tout au long de l'année, en me faisant livrer. Donc voilà comment est né Popapot, hein, et tu vois, ça a mis beaucoup de temps à germer et à construire, et puis il a fallu en fait oser se lancer. C'est pour ça que ce podcast, moi je le trouve intéressant sur cette notion d'audacieuse, parce que oser, c'est quelque chose qu'on fait pas tous les jours non plus, et d'être capable d'oser se réaliser, d'oser réaliser ses rêves, d'oser contribuer à ce que les artisans soient mieux rémunérés et justement rémunérés par rapport à la valeur travail de ce qu'ils ont construit quand ils ont réalisé les produits, c'est quelque chose qui était très très important pour moi. Donc la deuxième aspérité de Popapot par rapport à la communauté, c'est effectivement ce respect de la valeur du travail. Moi, les artisans avec qui je travaille, ils sont partenaires. Il y a un mode de rémunération qui est extrêmement simple, c'est-à-dire que c'est eux qui me fixent leurs tarifs. Et en fait, après, moi, je me débrouille pour fonctionner sur tout ce qui est frais de livraison, commission. Mais l'artisan ne paye rien de plus, et je tiens absolument à ce que sa marge soit préservée lorsqu'on travaille ensemble, qu'il puisse vivre évidemment honnêtement et correctement de son travail.
Effectivement, le point que tu viens d'évoquer, c'est un point très différenciant. Je voudrais savoir où tu en es aujourd'hui avec ce service, avec cette marque, avec cette plateforme.
Alors aujourd'hui, on a une vingtaine d'artisans qui sont présents sur le site, donc une vingtaine de pop-upoteurs qui ont recommandé ces artisans. Et le site décolle petit à petit, puisque c'est l'effet bouche à oreille qui fonctionne, qui est aussi boosté avec la logique de la commande groupée. La commande groupée, c'est quoi ? C'est des voisins, des amis, en tout cas des gens qui habitent très proches, qui décident de commander dans un seul même et même colis de la marchandise pour effectivement faire des économies de frais de livraison et puis aussi pour partager. Et nous, on a mis en place un système technique qui facilite grandement ce système de commande groupée. Et donc, tu vois, la notion de partage, elle est toujours au cœur de Popapot, et à chaque fois, c'est ça qu'on prône au maximum. On invite également, puisque là, on va arriver sur l'été, à ce que les consommateurs qui ont déjà dégusté certains artisans qu'ils ont découverts se rendent sur place quand ils vont être pendant leurs vacances, par exemple, s'ils sont dans le coin. Les adresses des artisans sont connues et on les invite vivement à aller les rencontrer, parce que souvent, ces artisans sont évidemment passionnés et passionnants quand ils racontent leur métier.
Alors, tu l'as dit, tu peux le répéter, combien d'artisans aujourd'hui collaborent ou participent à ton aventure ?
Il y a 20 artisans à date, à ce jour, sur le site.
Et alors, ce sont des artisans qui se situent, tu as parlé de la Dordogne, mais est-ce qu'ils se situent aux quatre coins de France actuellement ou c'est ciblé sur une région ?
Mon bureau, en fait, c'est la France entière. J'ai la chance et la volonté, en tous les cas, de ne rencontrer que des artisans qui soient basés en France, qui travaillent avec des produits français. Et moi, je reste convaincue que toutes les régions de France ont la capacité à nous raconter la manière dont on peut exploiter le terroir, la terre, et fabriquer des produits qui soient en adéquation avec chacune des régions françaises. Donc, j'ai des artisans qui sont présents un peu partout. Pour l'instant, c'est effectivement un peu plus le sud de la France, mais j'ai également des artisans qui sont présents dans l'Oise, par exemple. Donc la vocation de Popapot est de couvrir toute la France.
D'accord. Bah, écoute, c'est une belle aventure. Moi, je voudrais maintenant que tu m'expliques comment tu la vis, cette aventure, en tant que jeune entrepreneur, finalement. Alors, de 50 ans, certes, avec une vraie expérience et sans doute une expertise que tu réinvestis dans cette aventure. C'est quoi la vie d'une entrepreneur ? Je crois qu'on dit comme ça, hein, il y a toujours les deux, entrepreneuse ou entrepreneur, peu importe, aujourd'hui. Comment ça se passe ?
Quand on crée une entreprise et comme moi, on décide de la créer seule par une volonté, entre guillemets, d'être autonome dans ses décisions et dans ses choix, je fais preuve d'une grande, grande vigilance à essayer de m'entourer de tous les conseils possibles autour de moi et de toutes les expertises techniques que je ne maîtrise pas. C'est-à-dire que moi, je me considère plutôt comme un chef d'orchestre. J'essaye de franchir des collines, des montagnes, des cols à chacune des étapes, parce que quand on crée son entreprise du début de l'idée jusqu'au quotidien, il y a sans arrêt des petites montagnes à franchir. Et l'idée, en fait, c'est toujours de se dire, bon, celle-ci, est-ce que je peux la franchir seule ? Et si je ne peux pas, auprès de qui je peux me faire aider ? Parce qu'il y a des gens qui vont être beaucoup plus experts que moi pour cet accompagnement. Et ça, c'est un point qui est important et qui rejoint, entre guillemets, mon envie de partage qui est au cœur de Popapote.
Est-ce qu'il y a eu des moments de remise en question ?
Alors, évidemment, il y a des moments de remise en question. Je pense que quand tu m'as dit qu'est-ce qu'est l'audace pour toi, moi, je considère que c'est plutôt la capacité à oser. Mais évidemment, il y a des remises en question assez souvent. Assez fréquemment, et en fait je trouve que ce qui me caractérise, c'est cette prise de conscience de ce moment de se dire bon, peut-être que je ne vais pas y arriver, donc il y a un moment de lucidité, mais après c'est cette force de se dire bon, mon concept est là, je sais que je peux le faire, donc je vais trouver une autre solution si j'ai eu une difficulté qui s'est confrontée à moi, et donc je vais essayer de la contourner soit seule avec mes propres ressources, soit à nouveau en allant partager avec un expert qui peut m'aider ou qui va pouvoir me poser la bonne question qui me réorientera en tous les cas pour trouver une nouvelle piste.
Est-ce que ton entourage est très présent ? Est-ce qu'il te soutient ? Comment ça se passe à la maison ?
Tu as raison, c'est un point extrêmement important. J'ai beaucoup, beaucoup de chance parce que mes deux enfants sont très, très moteurs, font beaucoup de retours et de partages, de feedback sur les communications, sur la marque, sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils constatent. Donc ça, c'est vraiment un vrai bain de bonheur, parce que forcément ils sont pas complètement dans la cible de mes clients, mais néanmoins ils permettent une remise en cause et en tout cas un questionnement quasi quotidien. Et puis évidemment mon mari qui est aussi très présent malgré son travail, qui aussi apporte des critiques dans le sens positif du terme, avec évidemment toute la bienveillance qui apporte avec les gens d'une famille évidemment.
Donc tu es une audacieuse bien entourée, on peut dire ça.
Alors tout à fait, et je reste convaincue que ça fait partie d'une des clés du succès pour réussir dans cette vie d'entrepreneuse, parce que si on reste seul et isolé, je pense qu'on peut très vite dépérir, et aller chercher de l'aide, quelle qu'elle soit autour de soi, est extrêmement positif.
Alors, est-ce que quand tu avais une vingtaine d'années, que tu démarrais peut-être ta vie professionnelle, alors tu l'as évoqué, tu as travaillé dans une ou dans plusieurs grosses entreprises, est-ce que tu t'imaginais un jour devenir entrepreneur ?
Alors, absolument pas. Ce qui est très rigolo, c'est que je ne viens pas d'une famille du tout d'entrepreneurs. J'ai fait une école de commerce. Quand on est bon élève, on fait la voie classique. Finalement, je me suis assez peu rebellée à cette époque-là. Et puis, tant que ma vie professionnelle dans cette grosse entreprise était remplie de nouvelles découvertes, de nouvelles acquisitions de compétences et de nouvelles rencontres, j'y trouvais mon bonheur. Et puis, à un moment donné, en fait, j'ai eu cette dissonance entre mes valeurs propres, celles les miennes, et celles que clémait l'entreprise. Et cette dissonance, en fait, m'a fondamentalement dérangée. Et je me suis dit, je vais créer une entreprise qui me ressemble et dans laquelle je vais pouvoir faire vivre mes valeurs d'authenticité, déjà, être vraiment moi-même et se permettre d'être soi-même, des valeurs de respect de la valeur du travail de chacun. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, la valeur du partage. Je trouve que quelle que soit la chose qu'on consomme, qu'on utilise, le partage est le meilleur moment en termes de plaisir qui permet de magnifier en fait la chose qu'on va consommer, utiliser. Voilà, c'est comme si on allait au théâtre tout seul. Je trouve que c'est dommage, il vaut mieux y aller à plusieurs. Ce partage-là est extrêmement important pour moi.
Alors, tu as quitté le confort, même s'il y avait des dissonances, le confort d'une grande boîte. Comment réagit ton entourage au sens large ?
Pour la génération, notamment mes parents, forcément un peu d'inquiétude, parce que quitter ce confort matériel peut paraître surprenant. Néanmoins, mon mari, ma famille étaient à fond, parce qu'ils me connaissent très bien sur le côté fonceur et sur le côté avoir envie de se réaliser. Et l'avoir l'envie d'être soi-même. En fait, j'avais vraiment envie de pouvoir essayer et de réaliser l'occasion d'être vraiment moi-même dans le monde professionnel. Donc oui, il y a eu de la surprise au départ, mais après, il y a eu pas mal de compréhension et d'accompagnement.
Ça t'a déstabilisé, notamment le regard des générations précédentes, hein, qui, elles, effectivement, se sont inscrites plutôt dans une continuité professionnelle. Est-ce que ça t'a un peu déstabilisé quand même? Est-ce que de temps en temps, tu y penses et tu te demandes pas s'ils avaient pas un peu raison? Comment ça se passe dans ta tête d'audacieuse?
Moi, j'écoute beaucoup tout ce qu'on me dit. Je pense qu'il faut à un moment donné faire des choix et les assumer. En fait, c'est ma philosophie de vie. Je me suis dit, je me lance, je fais tout pour réaliser mon rêve. Pendant que je le réalise, je prends énormément de plaisir. Donc ça, c'est déjà ma première victoire et c'est ma première récompense. Elle n'est pas du tout financière, évidemment, mais je prends un bain de plaisir, comme je dis tous les jours, en animant Pop-A-Pot.
Est-ce que tu travailles beaucoup, Valérie ?
Alors, je travaille énormément, mais à nouveau, je travaille pas. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression de faire du travail tel que je le faisais avant au bureau, c'est-à-dire que je passe beaucoup d'heures au téléphone, beaucoup d'heures sur mon ordinateur et beaucoup d'heures aussi en contact avec les artisans que je vais rencontrer aussi physiquement. Et donc, je considère que c'est pas réellement du travail, c'est plutôt de l'épanouissement, de la construction, des échanges qui à chaque fois m'enrichissent. Et ce que j'aime aussi, c'est relever des défis techniques avec la partenaire technique qui m'aide sur le site pour essayer de trouver d'autres solutions pour faciliter l'expérience consommateur et faciliter la vie aussi de mes artisans. Donc, je travaille beaucoup en termes d'heures, mais je considère que c'est vraiment du plaisir et pas du travail.
J'aimerais bien savoir comment tu te projettes. Et pour toi, l'idéal, le Graal, ce serait que Pop-A-Pot ressemble à quoi dans 5 ans? Est-ce que tu as une idée?
Alors évidemment, oui, j'ai une idée. Le souhait, il est que cette communauté soit évidemment un peu plus importante et qu'on continue à partager avec des rencontres physiques. Donc j'ai plein de petites idées dans ma besace, hein, évidemment. L'idée, c'est que l'Internet n'est qu'un outil pour moi. L'idée, c'est qu'on puisse, que les épicuriens, les pop-a-poteurs, les plus fidèles consommateurs de Pop-A-Pot puissent rencontrer les artisans. Soit l'artisan vient à eux, soit c'est eux qui iront voir l'artisan pour passer une demi-journée ou une journée avec eux. Parce que quand moi j'ai la chance d'y aller, je ressors à chaque fois avec des paillettes dans les yeux et une vraie compréhension de leur métier, de la réalité de leur métier d'agriculteur qui n'a strictement rien à voir avec ce que certains peuvent imaginer. Et puis ils m'ont transmis leur passion. De leur métier, qui travaillent avec des animaux ou qui travaillent avec de la matière première brute. Mais j'aimerais vraiment pouvoir partager cette richesse en physique avec les pop-a-poteurs et avec les artisans. Et puis évidemment, créer une petite équipe, parce que c'est ça qui parfois me manque au quotidien, c'est d'avoir une équipe avec moi de quelques personnes qui permettraient d'être encore plus réactives aux demandes des clients, d'intégrer encore plus d'artisans pour que la communauté grossisse et soit plus qu'il y ait encore plus de partage, plus de moments de partage.
En tout cas, c'est une très belle idée. J'imagine que d'abord, c'est une très belle idée. Tu l'as précisé, c'est une idée qui a déjà au moins 4 ans, donc qui n'est pas toute nouvelle, mais qui est en tout cas bien en lien avec tout ce qui s'est développé ces derniers mois, notamment lié au confinement. Est-ce que le confinement, enfin toute cette période de pandémie, t'a apporté quelque chose de positif dans ton activité ?
En fait, la pandémie et le confinement ne m'ont pas fondamentalement gênée. Je trouve que ça a été une opportunité de travailler encore dans un monde à nouveau encore plus compliqué et plus imprévisible. Ce qui m'a apporté, c'est de gérer encore plus les imprévus. Parce qu'en fait, nos consommateurs eux-mêmes étaient un peu perdus par rapport à ce qui se passait entre les annonces de confinement, de déconfinement. Et donc, on voyait en fait que le consommateur avait un comportement assez erratique et pas du tout classique par rapport à ce qu'il avait pu avoir sur les années précédentes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou de manière générale. Donc, il a fallu sans cesse s'adapter, sans cesse trouver des nouvelles idées et puis retester au fur et à mesure, parce que c'est pas parce qu'à un moment donné, ça ne fonctionnait pas. On avait un contexte conjoncturel qui était tellement particulier qu'il fallait de toute façon s'adapter à modifier les process, à s'adapter et à répondre un peu mieux aux besoins de chacun qui se faisait effectivement plutôt avec des visions très très court terme. Hein. Le consommateur avait plutôt parfois envie d'être livré pour hier, hein, comme on dit souvent. Donc il faut sans arrêt effectivement expliquer que le monde de l'artisanat, c'est pas le monde de la grande distribution, que le monde de l'artisanat, il y a des stocks qui sont forcément beaucoup plus réduits, que quand il y a plus de poulets, il faut attendre qu'ils grossissent, par exemple. Pareil pour les canards. Enfin voilà, il y a plein d'histoires que les gens doivent comprendre, et c'est aussi ça qui me plaît dans cette communauté d'épicuriens, c'est que c'est des gens qui ont cette sensibilité-là aux produits et qui, quand ils arrivent sur le site, comprennent, ou en tout cas cherchent à comprendre l'ensemble des problématiques du monde agricole français, et ils cherchent à le soutenir évidemment aussi financièrement.
En fait, Valérie, ta proposition, elle s'inscrit totalement dans l'air du temps, on est bien d'accord, hein, sur effectivement le circuit court, le mieux manger, l'économie sociale et solidaire, les systèmes de coopératives, hein, finalement c'est un peu ton sujet, avec effectivement l'implication de toutes les parties. Donc ça c'est un très beau challenge. Est-ce que tu as un ou deux produits coup de cœur dont tu pourrais nous parler?
Moi j'ai les produits de la ferme du Cunoir Périgourdin. Le Cunoir Périgourdin, alors c'est une race de cochons, hein, je n'emploie pas de gros mots. C'est une race de cochons très particulière parce qu'ils ont les fesses toutes noires. Et en fait c'est mon premier artisan et qui fait vraiment des produits à base de, évidemment de cochons, de viande de porc qui est absolument goûteuse, pas du tout grasse. Et je vous conseille vraiment leurs rôtis de porc qui sont juste un délice. Leurs escalopes de porc marinées également. Enfin, il y a énormément de produits chez cet artisan dont je suis particulièrement fan. Et ce qui est toujours très rigolo, c'est que des gens qui n'ont pas mangé qui mangent du porc habituellement tel qu'on peut le connaître, quand ils dégustent les produits de la ferme du Cunoir, ils redécouvrent le goût, le véritable goût de ce produit, de cet animal. Et c'est toujours une belle surprise. Voilà. Après, j'ai envie de dire tous les artisans à qui je travaille sont intéressants. Après, comme je disais, c'est pas moi qui ai tout le monopole et tout le savoir-faire sur le goût. Je fais volontairement confiance à des clients qui connaissent parfaitement l'homme l'artisan, celui qui produit, mais aussi les produits. Donc il y a des produits sur lesquels je suis peut-être un peu moins fan. Mais ils sont tous bons et voilà.
Comment tu peux t'assurer, Valérie, que c'est pas du copinage, par exemple?
Parce qu'en fait, moi, je vais rencontrer, alors une autre spécificité de Pop-A-Pot, hein, c'est que moi, personnellement, je vais sur chacune des exploitations de l'artisan, le rencontrer, échanger avec lui, et je ne travaille qu'avec des agriculteurs qui sont, ou des artisans qui sont en agriculture raisonnée ou bio, parce que parfois en France, de la bonne agriculture raisonnée est presque plus efficace que de l'agriculture bio. Et puis j'échange beaucoup avec eux, et à chaque fois, j'ai la chance de visiter leur exploitation. Donc on voit aussi la transparence et l'authenticité et le savoir-faire de l'artisan. Donc c'est comme ça déjà que je vais m'assurer de la qualité du produit à travers le savoir-faire et l'expertise de l'homme, de l'artisan. Donc ça c'est la première caution. Et puis après évidemment je vais goûter les produits, mais même si je ne suis pas en adoration totale, et j'ai toujours le consommateur qui m'a recommandé cet artisan, qui lui l'a goûté et que j'interviewe et qui me raconte pourquoi il aime ces produits, et souvent ils me font rêver, parce que quand ils expliquent pourquoi ils aiment un produit, on arrive vite à avoir l'eau à la bouche et avoir une envie de déguster les produits parce qu'ils savent bien les raconter aussi.
Alors comment on peut t'aider, Valérie? Ce sera ma dernière question, elle est importante.
C'est super gentil. Moi je fais appel à tous les épicuriens qui aiment le bien manger, mais le bien manger vraiment authentique. Moi je suis seule dans cette société, c'est-à-dire que j'ai pas de grand groupe derrière moi, j'ai pas des moyens énormes, et je reste persuadée que cette société, on peut la créer avec tous les épicuriens qu'ils souhaitent, ceux qui aiment le bien manger, mais le vrai bien manger, avec de l'authenticité et le respect de l'artisan qui l'a produit. Et donc j'invite à toutes les personnes qui se reconnaissent dans cette description à nous rejoindre sur le site et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse partager encore mieux ensemble.
Alors, deux mots sur ta marque, le nom. Explique-nous, Pop-A-Pot.
Alors, Pop-A-Pot, quand j'ai choisi un nom de marque, forcément, c'était assez long parce que c'était difficile de se différencier. Et comme le mot partage revenait en permanence dans la construction de cette marque, en fait, est rapidement né Pop-A-Pot. Pop-A-Pot, ça veut dire ce sont des potes qui partagent des bonnes adresses pour faire des bonnes popotes. Je ne voulais pas rester juste sur le goût, parce que évidemment tous les produits sur le site sont goûteux et savoureux, mais pour moi c'est absolument la base. de évidemment livrer des bons produits. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager ces plaisirs autour de, des bons produits quand on les déguste, quand on les prépare, quand on imagine les recettes, quand on partage un apéro, un repas avec ses amis.
Eh bien, écoute, Valérie, ton audace, ton dynamisme, ton investissement nous mettent l'eau à la bouche. Je vais tout de suite aller voir. J'y suis déjà allée, évidemment, mais je vais tout de suite retourner voir. Et notamment, peut-être que je vais passer une petite commande pour ce porc. Comment tu l'as appelé ?
C'est la ferme du Cunoir Périgourdin.
Voilà. Donc, je vais m'y rendre de ce pas. Merci beaucoup, Valérie. Et puis, bonne route, surtout.
Merci, Carole.
Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.